Vous écoutez
RMC. RMC. Le dossier des GG.
Un dossier qui va nous permettre de comprendre les méthodes de management de Stuart Lancaster. L'Anglais a quitté le Racing en janvier dernier, 5 mois après. Bah, il a balancé dans un podcast sur le comportement de ses anciens joueurs. Pour lui, ils se contentaient de leur zone de confort sans avoir envie de devenir les meilleurs possibles. Et il a parlé d'un management très particulier. On va en parler avec Julien Landry qui est avec nous. Salut Julien.
Salut François, salut messieurs. Salut, salut.
Très heureux de te retrouver. Ta première dans les GG cette saison, avant de lancer cette saison formidable pour notamment le club de Montpellier en rugby. Il y a la Ligue 2 également, Montpellier en foot, bon ça sera en Ligue 2, mais on suivra ça aujourd'hui, la reprise, exactement. Parle-nous de cette interview de Stuart Lancaster, puisqu'il a parlé, donc de, je le disais, de techniques pour réveiller son groupe au cours de ce podcast.
Oui, tu l'as dit, on peut dire qu'il n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois au moment de revenir sur ce passage raté au Racing. Il a même clairement allumé les joueurs du Racing qui, selon lui, tu l'as dit, n'avaient pas envie de progresser, faisaient le strict minimum, une attitude qui a fortement agacé l'Anglais.
Ça a vraiment commencé à me peser alors que moi j'étais debout à 5h du matin pour donner le meilleur. Il y avait un groupe de joueurs dans le même état d'esprit que moi et un autre qui se contentait de ce qu'il avait. Ce n'étaient pas des fauteurs de troubles, pas des mauvais mecs, tous étaient des bons gars. Mais ils n'avaient pas cette envie de devenir les meilleurs possibles et ça m'a vraiment frustré. Ils étaient dans leur zone de confort, ça faisait longtemps qu'ils étaient là.
Et plus les semaines passaient, plus sa colère montait. Les résultats étant loin d'être au rendez-vous. 5 victoires, 5 défaites en début de saison, dont celle contre le Stade français, 40-24, qui a provoqué un coup de sang chez Lancaster. Il se souvient de son discours après match.
Alors j'ai dit, je vais vous aligner en fonction de vos salaires, du mieux payé au moins bien payé. On va vous mettre en ligne. Ensuite, on votera pour désigner le joueur le plus respecté. Puis on vous classera du plus respecté au moins respecté. Dans ma tête, ceux qui ont les plus gros salaires devraient être les plus respectés parce que ce sont eux les leaders, ceux qui montrent l'exemple. J'ai demandé aux joueurs, est-ce que vous pensez que ce sera le cas? Ils se sont dit que j'avais craqué.
Finalement, il n'a pas été au bout de son idée, mais il a malgré tout établi un classement en fonction du respect. Il s'explique.
J'ai pris la liste de l'effectif, 45 joueurs avec quelques jeunes, et je leur ai demandé de s'évaluer entre eux sur 3 critères, technique, tactique, physique et mental, sur 10 pour chaque joueur. Chaque joueur a donc reçu 44 évaluations, on a calculé une moyenne et ensuite on a classé tout le monde. Techniquement et tactiquement, qui est le plus respecté? Gaël Ficou était numéro 1, Owen Farrell numéro 2, et ça allait jusqu'au 45e. Ça a eu de l'impact parce qu'il y avait des mecs qui se voyaient comme des cadres, comme des leaders persuadés d'avoir le bon état d'esprit. Mais il a fallu ce retour de leurs coéquipiers pour que cela crée un électrochoc. En France, ils appellent ça comme ça.
Un électrochoc qui a quand même fait flop. Après le derby, les Franciliens avaient enchaîné 4 défaites, un seul nul en top 14. Et la défaite contre Castres fin janvier aura sonné la fin de l'aventure de Lancaster au Racing.
Et ben voilà, c'est une interview assez passionnante quand même dans un podcast de management. Voilà, c'est un podcast vraiment assez particulier, c'est pas seulement sportif. Merci beaucoup Julien d'être venu pour nous lancer ce dossier des GG. Est-ce que vous validez ce genre de technique de management? Ça c'est une vraie question que je voulais vous poser parce qu'on l'a vu, il demande aux joueurs de noter les autres, il fait son classement ensuite en fonction d'un barème. Bon, il explique que ça a eu quand même un petit impact ensuite de voir que par exemple certains cadres ne faisaient pas partie
mais pas
des
sur les résultats, notés, du
mais
coup.
Pas sur les résultats comme nous le disait Julien.
Ce qui est le plus important, moi, j'ai envie d'entendre Pascal, c'est lui le coach. Donc c'est il a eu des méthodes. Pascal, on l'a entendu. Il y a eu des vidéos. Pascal, il savait motiver un groupe, il savait les transcender. Il a fait des choses extraordinaires avec Toulouse, qu'il a sauvé. Moi, je trouve que de les aligner comme ça, de leur parler de leur salaire, il dit que les joueurs les mieux payés, c'est les plus respectés. Je comprends même pas la logique. Alors c'est un sport où on nous dit qu'il y a des valeurs. Là, j'ai du mal à comprendre que c'est plus marcher. D'ailleurs, qu'il ait pu croire. C'était quand même un ancien sélectionneur de l'Angleterre.
Ah oui, c'est pas n'importe qui Lancaster quand il arrive
mais
au Racing.
Mais qu'il ait pu croire que ça marche en France ce genre de méthode, pour moi c'est totalement en décalage avec ce qu'un entraîneur doit faire. Tu peux dire beaucoup de choses aux joueurs, tu peux les remettre en cause, tu peux, mais leur parler de leur salaire, leur parler du respect par rapport à d'autres. Moi, je pense qu'il s'est totalement fourvoyé.
C'est tellement faible. Moi, si un coach me fait ça, ben moi, je le note à 0,2, quoi. Je suis en 150. C'est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas les armes, tu n'as pas les arguments. Déjà, tu te sers des joueurs qui sont parfois en concurrence les uns les autres pour se noter, donc ça n'a aucun sens. Ensuite, ça veut dire que tu ne sais pas prendre tes responsabilités. Et en plus, ça marche pas. Catastrophique. Honnêtement, j'ai ce coach, je me rappelle même plus que je l'ai eu parce que c'est
d'adobe. Franchement, je pense que s'il avait cité les noms, j'aurais pu, à la limite, porter un peu de crédit à ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est qu'il dit rien, en fait. Il dit, il y avait un groupe de joueurs qui arrivaient pas motivés, qui se contentaient de peu. Mais en fait, il montre son désaveu, tout simplement. Parce que la première mission d'un coach, c'est de construire des séances, c'est de mettre des outils en place pour que les joueurs progressent, pour que les joueurs s'entraînent conséquemment, et pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. C'était son rôle de faire en sorte que s'il y avait des joueurs dans l'effectif qui n'étaient pas, des compétiteurs, c'était à lui de faire en sorte qu'ils deviennent compétiteurs.
C'est sa défaillance qui est mise en
exergue. Voilà, c'est sa défaillance. Moi, il montre sa défaillance. Après, je suis désolé, il fait pas Zorro. Parce que si c'était Zorro, il aurait dû citer des noms. Il aurait dû dire un tel et un tel. Et puis après, la dernière chose, l'évaluation par les 45 joueurs de leur partenaire, elle s'est faite, sous sein privé. Mais c'était anonyme ou il y avait le nom de ceux qui notaient ?
Non, a priori, c'était anonyme.
C'était anonyme ? Si c'était anonyme, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout.
Ça valait. Ensuite, ils montraient ça aux gens en disant voilà comment vous êtes évalué par l'ensemble du groupe.
À la limite, c'est presque de manière fausse. C'est tout faux.
C'est anonyme, tu peux mettre ce que tu veux. C'est ton concurrent, tu mets qu'il est nul.
C'est biaisé, tu veux dire.
Toi, tu l'as jamais fait,
Pascal, dans un groupe, essayer justement peut-être de les responsabiliser pour les secouer en disant il va falloir quand même que vous
montriez
autre chose.
Il m'est arrivé d'en allumer devant leur partenaire. Oui,
mais jamais se servir des joueurs pour allumer les autres.
Ça me regarde, c'est mon avis. Je suis l'entraîneur principal, c'est mon avis. Ça regarde même pas mes adjoints. Ça me regarde. Il m'est arrivé, ça dépend. Je dis pas que j'ai toujours bien fait. Il m'est arrivé de tenser un joueur devant ses partenaires, mais c'était volontaire. Mais après, dans la presse, j'en parlais pas. Ouais, j'ai vu plein de choses, notamment un des clubs des derniers que j'ai fréquenté, Saint-Étienne. J'ai vu de ces absurdités. Vous m'avez entendu dire un mot dans la presse ?
Non.
Aucun. Aucun. Par contre, j'ai vu des trucs, je vous dis pas, hein. Mais je peux pas le dire.
Bah si, là maintenant, c'est dommage.
Vous me prendriez pour un menteur si je vous disais ce que j'ai vu.
Ah bah non, mais là, t'en as trop
des
dit.
Des trucs incroyables qui n'existent pas, antinomiques pour le football professionnel.
Ouais, mais ce qui se passe dans les vestiaires,
j'ai rien dit.
Mais moi, je pense qu'il veut faire le courageux, mais il manque de courage. Voilà, parce que soit ici, il veut flinguer dans la presse, il envoie les noms. C'est qui les mecs qui se contentent de
La méthode, Pascal, de dire ça quelques mois après, de revenir dessus,
critiquer alors qu'il a été limogé. Oui, alors après, c'est parce qu'il parle de management, justement. Moi, je trouve ça intéressant quand on n'est pas dans un vestiaire de savoir, de connaître aussi les ficelles d'un manager quand il a quasiment plus rien sous la main pour secouer un groupe, parce que c'est ce qu'il est en train de dire.
Moi, je trouve ça hyper intéressant, effectivement. On se rend compte que le mec est complètement nul et qu'il faut pas du tout faire ce genre de choses. C'est parfait.
La seule chose
qui soit utile dans ça, c'est de se dire que il a tenté des choses et il veut se protéger en disant j'ai tenté plein de choses et on n'a pas réussi. C'est pas de ma faute. Magnifique.
Ouais, c'est des excuses. Après, les coachs, ils ont plein d'armes, ils ont plein de flèches à leur arc. Moi, je garde toujours en mémoire.
Le management, c'est intéressant.
C'est plutôt des cordes à leur arc.
Des flèches.
Oui, c'est ça, des flèches à leur arc.
Je garde toujours. Les coachs, ils ont beaucoup de moyens pour faire grimper les joueurs au rideau. Je me rappelle toujours, ça va parler à Pascal le 16 mai 2020, quand Pascal fait
cette fameuse causerie à Angers et que Toulouse réussit ce que aucun club n'avait réussi en Ligue 1. Tu vois, rien que d'en parler, Pascal, j'ai des frissons. Parce que ouais, ce jour-là, bon, quand t'as été coach, ouais, mais c'était fantastique. Et donc, t'as réussi à surmotiver.
Ça, c'est un volet du management. Volet parmi tant d'autres.
C'était génial.
Oui, c'est parler de la fibre un peu personnelle de chacun, etc. Voilà, c'était aussi une technique.
En fait, à mon avis, pour obtenir la quintessence des résultats, et Fred, qui a été joueur professionnel, va pas me contredire, c'est bien mieux d'être positif avec les joueurs que d'être négatif. Il faut que tu sois le moins possible négatif. Tu peux pas fermer les yeux quand il y a des absurdités. Mais cela dit, c'est beaucoup mieux d'être positif et de faire véhiculer, même quand t'as pas de résultats, les résultats escomptés, une espèce de bonhomie dans un vestiaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je préfère.
Plus l'encouragement que le bâton.
Je donne raison à Pascal à 200%, mais autre chose aussi. On respecte plus un coach ou un sélectionneur ou peu importe, qui ne s'exprime pas dans la presse et qui parle dans le vestiaire et ça ne sort pas du vestiaire. C'est très facile de s'exprimer dans la presse.
Parce que j'ai beaucoup de mes amis coachs qui parlent beaucoup dans la presse, mais pas beaucoup dans le vestiaire. Ouais. Mais c'est mieux d'être l'inverse, hein.
Ah bah là, faut d'entrer les noms, hein.
D'attraper des joueurs et puis de leur dire en pleine face ce que tu penses. Et ensuite.
Moins t'es respecté, Pascal.
Et ensuite, t'as les journalistes qui te disent, mais on comprend pas pourquoi ils jouent pas, celui-ci. Mais ils savent pas que ça fait 15 jours qu'il fait chier. Tu vois? Non, tu peux pas leur dire.
Tu peux leur dire
One to one. Jamais d'off. Donne-moi un journaliste qui m'a chopé
quand tu vas piquer un joueur, tu le prends à part.
Bah, il one to one, ouais. Devant les autres, hein, c'est ce que disait.
Ah, mais ça m'est arrivé devant les autres. Ça m'est arrivé devant les autres.
Il devait avoir des raisons, j'imagine.
Ah oui, j'avais des raisons. Mais je l'éterrais devant vous, mais j'avais des raisons.
Non, mais tu dis rien là, Pascal. On a envie de savoir là. Faut faire un podcast.
Franchement. Je le respecte, hein, t'as vu, c'était quand même le sélectionneur du 15 de la Rose, le type.
Ouais.
C'est pas une trompette, le mec. Je comprends pas son truc, là. Qu'en fait, il fait le courageux, mais il est pas courageux, il est tout sauf ça. Balance-moi les noms dans la presse, à ce moment-là, je dis bravo. Là, parce qu'après, il s'expose, le mec.
Après, il sait que, ils se reconnaîtront aussi. Il leur a peut-être dit aussi, entre quatre yeux. Hein,
Tu sais qui est-ce? Quels sont les joueurs qui se contentaient? Donc ça fait pas avancer.
Ça intéresse même pas, moi, je te dis.
Fred, un souvenir comme ça d'un manager qui avait des méthodes un peu particulières, non?
Moi j'ai eu Dusko Ivanovic, coach très très dur, et première fois que je le vois, je l'appelle coach, et il m'a engueulé devant tout le monde, j'ai failli me faire pipi dessus. Il dit, moi je suis pas coach, c'est Dusko. La prochaine fois, tu vas courir pendant 3 heures.
Ah, bien joué.
C'est plutôt positif, ça.
Alors, positif, je sais pas.
Bah, il aimait qu'on l'appelle par son prénom.
J'ai eu très très peur, mais c'était positif.
Il était un peu fou, lui, non?
Complètement fou.
Et Fred, le sélectionneur de l'équipe de France de basket, Fautou, il m'a l'air inspirant. Tu vois, j'aurais eu envie d'être entraîné par ce type, je sais pas pourquoi.
Parce que c'est un vrai meneur d'homme. C'est un énorme meneur d'homme. Il a ce caractère un peu, il vient des Landes, donc ce caractère un peu dur. Mais il est très sympathique.
Il y a du charisme, tu vois. Puis bon, il raconte pas des conneries.
Il connaît bien le basket, il est très sympathique. Oui. Et par contre, il déroge pas à ses règles. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ouais.
On aura l'occasion de reparler de management dans cette émission des Grandes Gueules du Sport. C'est toujours passionnant. Et maintenant, vous savez tout sur ce qu'a dit Stuart Lancaster. Vous pouvez retrouver évidemment tout ça
sur
rmcsport.fr. Mais si, quand même, il a dit des choses. Après, que vous ne partagiez pas ces techniques, ça, c'est autre chose.